Rappelez-vous le témoignage de notre frère Jacques Bauvert, quand il disait qu'avec son épouse, à ce moment-là, il ne fréquentait aucune église pour différentes raisons. Ils ont ouvert la Bible chez eux. Ils sont arrivés sur ces passages du baptême, de l'esprit et du parler en langue. Et ils ont simplement fait cette prière sans qu'il y ait personne autour d'eux au Seigneur. Eh bien, Seigneur, si c'est vrai pour nous aujourd'hui, baptise-nous de ton esprit. Et ça s'est fait avec autant de simplicité que cela. Plusieurs ont été baptisés mardi soir. Le baptême du Saint-Esprit, c'est, comme son nom l'indique, c'est un baptême. C'est-à-dire comme quand on est plongé pour le baptême d'eau dans l'eau, c'est pas une fin en soi, c'est en fait un début. Voilà. Et donc à partir de là, eh bien, cette onction de l'Esprit qui est en vous va progresser, se développer. La comparaison, on va l'arrêter juste là, mais c'est comme un enfant qui commence à acquérir le langage. Au début, ses mots sont pas très fournis, un peu toujours les mêmes, mais ça va assez vite évoluer. Au bout d'un moment, même nous, on va lui dire arrête, arrête, voilà, de parler. Eh bien, je dis ça sous une forme de plaisanterie, mais c'est quand même vrai. Ne soyez pas surpris ou un petit peu décontenancé du fait qu'au départ, ça vous paraît un peu comme étant monosyllabique. Les mêmes syllabes, avec peut-être un petit peu d'émotion dans la voix, tout ça, c'est normal. Voilà. Ce qui ne serait pas normal, ce seraient les exagérations. Mais on n'est pas dans le cadre des exagérations, on est dans le cadre de quelque chose de nouveau. Que, en fait, on aurait en général plutôt tendance à retenir et freiner que à exprimer de manière exubérante. Quelques-uns l'ont fait, et là, il a fallu contenir et freiner. Mais pour la généralité des frères et sœurs baptisés du Saint-Esprit, eh bien, c'est plutôt le phénomène inverse. Ils se contiennent un peu, ils se freinent un peu parce qu'ils sont en train de réaliser ce qui est écrit, c'est que l'intelligence demeure stérile et notre esprit est en prière. Et cet exercice-là, il est nouveau. C'est pas qu'il est perturbant, il est nouveau. Alors, de temps en temps, on aurait envie entre guillemets, de reprendre la main, ou de reprendre la langue. Et puis, de temps en temps, on réalise que non, si je la reprends, c'est comme si je freinais. Alors que l'esprit voudrait m'amener à m'exprimer. Ouais, mais tout ça, c'est normal, et ça va se faire avec le temps, voilà, tout simplement. Je voudrais ce soir continuer en allant voir plusieurs textes. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15, et ensuite chapitre 16. Évangile de Jean, chapitre 14, et verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous, avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Mais autrement donc, hein. Encore un peu de temps et vous, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. La promesse qui est faite a une dimension d'éternité. Il demeurera éternellement, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce qui veut dire que ce n'est pas une expérience du moment, même si d'une certaine manière il y a une apparence momentanée, le fait de parler en langue, et un jour quand nous serons dans le ciel de gloire, ces choses-là, eh bien, cesseront. Mais l'onction de l'Esprit ne cesse pas. Et la promesse que le Seigneur a faite, c'est un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec nous. Alors le terme consolateur en grec signifie celui qu'on appelle au secours du verbe appeler auprès de soi. Ça veut dire qu'il y a vraiment une proximité, presque une affinité, une intimité qui va se mettre en place entre le Saint-Esprit et nous, qui est vrai dans les deux sens. C'est-à-dire que l'Esprit nous respecte, Dieu est esprit, il respecte toutes ses créatures. Tout le temps, dans tous les domaines, y compris à la croix, lorsque celui qui a dit « Je suis Emmanuel, Dieu avec vous, le Père et moi, nous sommes un », il ne force pas les deux brigands. Donc, à tout moment, dans tous les domaines de l'œuvre de Dieu, y compris l'œuvre du salut, il n'y a aucune contrainte, aucune pression de mise. Et quand l'Esprit vient, il en est toujours de même. Donc il y a une intimité et un respect profond de la personne que nous sommes, de la part de Dieu vers nous, de la part de l'Esprit vers nous. Jamais l'Esprit ne nous mettra en difficulté, en situation embarrassante. Donc enlevez les clichés que vous avez peut-être vus ou entendus, parce que ça ne vient pas de Dieu. Ce qui déborde ne vient pas de Dieu. Dieu ne déborde pas. Voilà. Et c'est vrai dans l'autre sens. C'est que nous aussi, nous pouvons affecter l'Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est écrit dans l'autre sens également. Donc c'est une intimité nouvelle et dans laquelle eh bien, nous allons progresser, nous allons apprendre. Comme quand on est au contact d'une personne, on va apprendre ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît, ce qui la froisse, etc. Eh bien, l'Esprit de Dieu envers nous le respecte absolument, et on est différents les uns des autres, ne serait-ce que les hommes et les femmes déjà, n'a pas la même sensibilité à l'Esprit, et Dieu respecte l'homme et Dieu respecte la femme, et entre les hommes et entre les femmes, c'est encore vaste. Eh bien, Dieu respecte chacun de ses enfants absolument. Voilà. Et donc, je vais très vite sur ce point-là, parce que ce n'est pas l'étude biblique sur le paraclète, hein, sur le consolateur, mais c'est celui qui est appelé à côté de nous, et la preuve, c'est qu'il demeure avec nous pour l'éternité. Donc on ne peut pas envisager d'être avec quelqu'un, à côté de quelqu'un éternellement, si on ne se respecte pas profondément. Ça ne tiendra pas. À un moment donné, l'un va dire de l'autre, je ne le supporte plus, d'une certaine manière. Voilà. Jamais l'Esprit ne le dira à notre égard, et il fait en sorte que jamais nous n'ayons à le dire à son égard. Voilà. Et tout le fruit de l'Esprit démontre cette action en profondeur, mais avec beaucoup de finesse et de délicatesse. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, ce sont des choses extraordinaires qui se passent en profondeur dans notre vie et qui jamais ne se passent de manière heurtée. Il ne vient pas nous heurter en nous disant « tu n'es pas maître de toi, tu aurais dû te maintenir, te contenir, te maîtriser ». Non, il va nous laisser le réaliser. Il va prendre ce qui est écrit, prendre du Seigneur, nous l'adresser, et nous allons y revenir. Et c'est nous qui allons lui dire, Seigneur, aide-moi. Mm-hmm. Et c'est l'Esprit qui le fait. Voilà. Et ce sera tout le temps comme ça. C'est pour ça que c'est un chemin qui est long, parce que Dieu donne le temps au temps, et on n'a pas tous la même vitesse les uns et les autres de progression. C'est celui qui est appelé au secours, il nous aide dans notre faiblesse quand on ne sait pas ce qu'il convient de demander. C'est un intercesseur, et il intervient, et le Seigneur intervient, et l'Esprit aussi. C'est un défenseur, il va agir dans le cœur des autres. Et puis c'est un consolateur, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Au chapitre 16 de Jean, il est dit ceci, qui est une autre action de l'Esprit, et qu'il ne faut pas mélanger avec celle dont on vient de parler, dont on va encore parler. Celle-ci, c'est l'action, je dirais général. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, qu'il vous l'annoncera. Et là, il y a l'action, je dirais des choses de cette manière, l'action et l'onction de l'Esprit mentionnée. L'action générale, il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et quand un témoignage est rendu, quand une prédication est donnée, c'est l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs, qui convainc les cœurs. Mais on ne peut pas dire, et personne ne le dirait, que la personne est remplie de l'Esprit, baptisée du Saint-Esprit. On dit et on le sait que l'Esprit de Dieu a touché son cœur. C'est le début de l'action de l'Esprit qui va amener jusqu'à l'onction de l'Esprit. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est à la droite du Père, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous, et c'est l'Esprit qui a été envoyé, et qui fait aujourd'hui toute cette œuvre de manière mondiale, générale, dans ce sens où quand le Seigneur était à un endroit, du côté du lac de Génézareth par exemple, il n'était pas de l'autre. Aujourd'hui, nous sommes dans la dimension de l'Esprit, et l'Esprit, Dieu est Esprit, est partout. À la fois, et peut être en train d'agir dans la vie de X personnes en même temps. Dimension différente de ce que le Seigneur Jésus faisait. Pour le voir, lui, il fallait se déplacer, ce qui générait des foules. Mais si on ne venait pas à lui, on ne le rencontrait pas. Mais aujourd'hui, n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit du monde, peut rentrer dans sa chambre et l'Esprit est là. Peut se réunir comme nous ce soir, et l'Esprit est là. C'est une dimension universelle qui a une dimension d'action et puis une dimension aussi d'onction. Et là, nous, ce qui nous occupe, eh bien, c'est cette dimension d'onction. Alors, quelques points de plus. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une doctrine clairement définie dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas quelque chose dont il faut forcer un peu l'explication, c'est clair. À partir du jour de la Pentecôte, ce que le Seigneur avait annoncé devient clair. Pose encore des questions, mais quand il avait dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu », maintenant on sait ce que c'est. Des langues de feu sont descendues et ils se mettent à parler en des merveilles de Dieu dans les langues que les gens qui étaient en pèlerinage à Jérusalem étaient capables d'entendre. Mais ça, ce n'était qu'un exemple. Il y en aura d'autres et d'autres et d'autres, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au retour du Seigneur. Voilà. Et cette prophétie de Joël, qui était reprise par le Seigneur et rappelée jusqu'à 10 jours avant la Pentecôte, comme on l'a vu, eh bien, c'est quelque chose de clairement défini dans le Nouveau Testament. Et ensuite, c'est particulièrement l'apôtre Paul qui continuera d'expliquer. Et quelque part, je me dis que c'est bien que ce soit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il est comme nous par rapport à la Pentecôte, il n'y était pas. Même si le décalage entre lui et nous, c'est pas le même, mais il n'y était pas. À aucun moment, la Bible dit qu'il était contemporain physiquement du Seigneur Jésus, comme nous. Et c'est quelqu'un finalement comme nous qui va dire et développer tout ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit, tout ce que sont les dons spirituels, tout ce qu'est le fruit de l'Esprit. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Donc c'est une doctrine qui est clairement définie dans le Nouveau Testament. C'est une promesse qui est personnelle. Et ça, c'est important. Je peux, ce soir, être moi baptisé du Saint-Esprit, la personne d'à côté, pas. Il ne faut pas essayer de trouver le pourquoi du comment. Elle ne le mérite pas, ce n'est pas le moment. Il faut se libérer de tout ça. Parce que c'est personnel, c'est entre Dieu et nous. À tel point que des fois, on est un petit peu désarçonné de certaines personnes qui apportent des dons spirituels et pour lesquelles nous, on dirait certaines choses. Et c'est comme ça. Ça ne vous est pas arrivé. Ça m'est arrivé des fois d'entendre une personne apporter un don spirituel. Je me dis, oh là là, Seigneur, elle devrait plutôt se taire qu'apporter un don spirituel. Sauf que les autres n'apportaient rien. Et elle l'apportait. Et c'était une parole de Dieu. Donc là, n'a rien à dire. C'est personnel, c'est entre Dieu et nous. Voilà. Et si vous estimez, peut-être que c'est inutile de le dire, mais je le dis quand même, si vous estimez que un tel est baptisé du Saint-Esprit, alors qu'il y a encore, à l'évidence, des choses encore qui devraient changer dans sa vie, et vous ne comprenez pas pourquoi vous ne l'êtes pas, libérez-vous de ça. Ça ne vous regarde pas. On n'aura jamais la réponse à cette question, parce que ce n'est pas une responsabilité que Dieu nous a donnée. C'est personnel, c'est entre lui et nous. Voilà. Et ce qu'il doit y avoir de mise en ordre dans ma vie, c'est ma responsabilité envers Dieu. Et il n'hypothèque pas ses grâces et ses bienfaits pour autant. C'est peut-être un début d'explication, mais on n'ira pas plus loin. Voilà. Donc, Dieu bénit. malgré tous les progrès que nous reste à faire. Donc, que d'autres soient bénis, béni soit Dieu. Si moi, je ne l'ai pas encore été, eh bien, ma responsabilité, c'est de dire, Seigneur, je voudrais l'être. Voilà. Et quand Ananias est venu prier pour Paul, Saul de Tarse, que tu recouvres la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit, il y avait un ensemble. Voilà. C'était pas, attendez, vous verrez plus tard, quand vous aurez progressé, compris, etc. Non. Chez Corneille, l'apôtre Pierre, moi je le dis souvent en plaisantant, peut-être était un peu trop long, et hop, l'Esprit a baptisé tout l'auditoire. Quand il dit, et je prêchais, et paf, ils se sont tous mis à parler en langue. Alors là, j'ai compris que Dieu leur donnait le Saint-Esprit, comme à nous, pouvais-je moi ensuite refuser de les baptiser d'eau, comme nous l'avons été. Et dans la circonstance, on voit que c'est Dieu qui est souverain, qui maîtrise l'ordre des choses. Dans certaines églises, il y a un ordre établi. D'abord, vous vous repentez, vous convertissez. Ensuite, vous êtes baptisé d'eau. Après, on verra. Et puis, vous lisez Corneille et vous voyez que Dieu fait comme il veut. Ça ne veut pas dire que les cœurs n'y étaient pas, mais ça veut dire qu'il y a une rapidité plus vive que nous. Voilà. Donc, ne dites pas, pas pour le moment, pas pour moi. Parce que ça, c'est vous qui le dites. Dieu, lui, il a un autre raisonnement. Et puis, ça a été une expérience renouvelée. Et grandissante. Voilà. La vie avec Dieu, c'est pas de l'instantané. Nous, on a l'habitude de l'instantané. La vie de l'esprit en particulier n'est pas de l'instantané, c'est un début d'éternité, éternellement avec vous. Donc, c'est normal qu'il y ait un début et une progression. Parce que si dès le début, on était déjà à la fin, voilà. Si le nourrisson se met à parler comme un énarque, tout le monde va dire « Oh là là là, quel génie !» Voire quel monstre, hein. Parce que si le nourrisson qui commence à sortir des mots, au bout de quelques mois, il vous sort des mots que vous ne connaissez même pas vous-même, vous allez dire « Il y a quelque chose qui ne cadre plus. » Alors, c'est de nouveau un petit peu d'humour, mais il faut qu'il y ait une progression. C'est normal qu'il y ait une progression. La nouvelle naissance commence. Et la maturité spirituelle est en perspective. Donc, expérience renouvelée, grandissante. Ne dites pas, mais j'ai déjà été baptisé du Saint-Esprit, je ne vais pas redemander à être baptisé du Saint-Esprit. Non. Mais vous êtes-vous arrêté depuis? Si je le dis, c'est que c'est arrivé. Les frères et sœurs se sont arrêtés en chemin. Mais ce n'est pas Dieu qui arrête, ce n'est pas l'Esprit qui arrête, c'est eux. Et d'autres, en fait, à un moment donné, des semaines, des mois, voire des années plus tard, ils ont eu comme de nouveau prise de conscience des choses. Et ils ont dit, ben c'est vrai, j'avais été baptisé de l'Esprit, mais j'ai tout, comme tout laissé. Et c'est dommage. Parce qu'entre le Seigneur et nous, il ne va jamais forcer. Donc si nous laissons, ça va rester en attente. C'est une expérience renouvelée et grandissante. C'est pour ça qu'on n'est pas surpris de voir dans le livre des Actes des Apôtres qu'après la Pentecôte, quand ils se réunissaient, de nouveau le lieu où ils étaient rempli de l'Esprit. D'aucun commentateur mal intentionné dit « Ah, ben vous voyez qu'ils n'étaient pas vraiment ou qu'ils avaient besoin d'autre chose. » Non, ils se réunissent et ils prient et l'Esprit se manifeste encore. Et il y a une progression. Et puis, je termine sur ce point, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour notre vie personnelle, c'est pour l'Église. C'est un ensemble équilibré. Pour l'œuvre de Dieu, parce que l'Esprit va convaincre de péché, de justice et de jugement. Et moi, je vais être sensible à la voix de l'Esprit. Et quand je vais parler avec quelqu'un, je ne vais pas lui parler en langue, mais je ne peux pas non plus avoir que des pensées d'ordre spirituel, mais que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur nous amène dans une dimension globale. Il va y avoir des pensées, il va y avoir des paroles inspirées, il va y avoir le parler en langue, il va y avoir des dons spirituels, il y a un ensemble de choses. C'est pour l'œuvre de Dieu. Il a donné son esprit pour son œuvre. Et rappelez-vous, comme on l'avait vu, dès la Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Et n'attendez qu'une chose, la venue du Messie, et quand il est venu, l'Esprit est venu sur lui. Et n'attendait qu'une chose, c'est que le pardon soit accompli, et le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Pour notre vie personnelle, c'est important, parce que nous n'avons jamais parlé à Dieu comme à partir de ce moment-là. Nous avons parlé à Dieu avec sérieux, sincérité et tout, mais dans un langage qui était le nôtre, dans une réflexion qui nous était propre. Et là, c'est comme si Dieu nous invitait dans sa dimension, tout simplement. Et pour l'Église, eh bien, parce que celui qui parle en langue s'édifie l'Église, s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, qui parle de la part de Dieu, il édifie l'Église. Voilà. Et moi, je me dis, mais Seigneur, c'est extraordinaire. Avec moi, tu veux faire du bien aux autres. Mais quand remonte la dernière fois où j'ai fait du bien aux autres, mais du bien comme toi, tu l'entends. Si tu ne me donnes pas ton onction, je ne pourrais pas faire du bien aux autres. Parce que des autres, j'en avais rien à faire. Je m'en méfiais, etc., etc. Seulement, voilà. Les autres, Dieu les aime. Et s'il me donne de son esprit, c'est pas pour que je vive dans mon coin perdu, isolé. L'esprit va m'amener à aimer les autres, à parler aux autres, à prier pour les autres. Voilà. Alors je vais terminer. La question, en fait, c'est non pas est-ce que Dieu veut donner, mais est-ce que je veux recevoir. Parce que lui, il a déjà dit X fois qu'il donnait, qu'il envoyait. Et l'Esprit est là. Alors, il s'agit plutôt que de recevoir plutôt qu'autre chose. Comment l'Esprit est-il reçu dans la vie de quelqu'un? Voilà, c'est très simple. Dans la prière. C'est le jour de la Pentecôte. Il priait et... Voilà. Et la plupart des exemples de baptême dans le Saint-Esprit se passent dans des moments de prière. Soit ensemble, soit chez soi, mais se passent dans des moments de prière. Dans l'obéissance à la parole de Dieu, l'Esprit donne, Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Et certaines personnes se sont surprises à parler en langue dans l'activité quotidienne, et ça les a un petit peu surprises, mais elles étaient dans un état d'esprit et de cœur d'obéissance. À d'autres moments, c'est pendant la prédication, Pierre chez Corneille. Voilà. Alors si pendant une prédication, vous entendez la personne autour de vous se mettre à parler en langue, ne lui donnez pas un coup de coude en disant « Chut, il prêche ». Laissez faire. Et puis, quand Paul ira à Éphèse, et on va terminer avec ça, acte 19, par l'imposition des mains. Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Si ce n'est pas direct, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alors je reprends les paroles de Paul, puisqu'on lui ressemble tous un peu, on n'a pas été avec le Seigneur, on n'était pas le jour de la Pentecôte. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors s'il y en a qui partent de zéro pointé, eux, oui. Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Non pas que leur baptême n'était pas valable, mais qu'il manquait la dimension du sacrifice. Et quand Jésus instaure le baptême, c'est lié à son sacrifice. C'est sûr qu'il y avait un acte préalable, préparatoire, annonciateur, mais le baptême doit être au nom du sacrifice pour le pardon de nos péchés. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue, prophétisaient, et ils étaient en tout environ 12 hommes. Autrement dit, mes frères et sœurs, moi je résumerai cela comme ça, toute réunion de recherche du baptême dans le Saint-Esprit, si on peut l'appeler comme ça, doit être on ne peut plus simple. n'y a rien à forcer. Il ne faut pas dire à quelqu'un répète après moi, parce que vous avez une communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, qui est personnelle, qui est particulière. Alors, ne dites pas à quelqu'un d'autre de répéter après vous. C'est comme, vous allez sourire de nouveau, mais c'est comme si un Chinois venait me voir en me disant répète après moi. Déjà, il faut arriver à répéter le Chinois, et ensuite je dis quoi. Donc là, il y a un décalage total. Répète après moi, c'est un décalage total. Non, vous pouvez prier pour la personne. Et c'est tout. Et c'est ce qu'on va faire encore ce soir. Que ce soit pour bien aller plus loin, pour ceux qui, mardi soir, ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Que ce soit pour le renouvellement de cette expérience, pour ceux qui, éventuellement, se seraient arrêtés. On n'est pas là pour donner des explications et encore moins juger. On est là devant Dieu et le Seigneur veut répandre son onction. Et que ce soit pour la première fois, et si quelqu'un disait « mais moi je ne suis pas encore baptisé d'eau », ce n'est pas mon problème. Chez Corneille, Pierre prêchait et c'est Dieu qui a géré. Voilà. Mais du coup, quand on est baptisé du Saint-Esprit, en général, on a compris. Voilà. Alors, et si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit et qui se dit, mais non, j'ai encore des progrès à faire, eh ben, cet argument, balayez-le, parce que si Dieu devait attendre que nous ayons fait des progrès que nous devons faire pour nous donner ses grâces et ses bénédictions, on serait tous dans la liste d'attente. On n'aurait encore rien reçu. Voilà. Alors le fait qu'il nous donne ne justifie pas notre position, ne cautionne pas non plus ce que nous pouvons encore faire de travers, mais doit nous obliger à progresser. Voilà.